Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
33 casques bleus sont morts au Mali depuis le début de la mission des Nations Unies. Les 7 pays contributeurs de troupes de la MINUSMA se sont retrouvés à Niamey. Le bilan est inquiétant pour ces pays africains dont les contingents sont en première ligne. Ebola, la situation est toujours stable au Mali. Selon l'OMS, après 2 semaines, les 108 personnes en contact avec la fillette décédée ne manifestent aucun signe de maladie. La justice transitionnelle est au cœur d'une rencontre des activistes des droits de l'homme depuis ce matin à Bamako. Selon eux, c'est en respectant le droit des victimes et en poursuivant les auteurs des exactions que se construit la réconciliation. Plus d'un milliard de francs CFA de pertes, c'est l'impact de la grève de 48 heures observée en début de semaine par la section nationale des mines et de l'industrie. Le syndicat menace de reprendre le mouvement s'il n'obtient pas satisfaction. Voilà pour les principaux titres de cette édition des 18 heures. Bienvenue. Réunion de crise hier à Niamey des pays contributeurs de troupes de la MINUSMA. Les casques bleus présents au Mali subissent depuis quelques semaines une véritable guérilla de la part des groupes terroristes. Les 3/4 des 8000 soldats de la paix sont constitués de forces africaines, dont 2000 Tchadiens et plus de 1200 Nigériens. À ce jour, 33 soldats de la paix sont morts au Mali depuis l'arrivée de la mission onusienne. Un bilan et une situation qui inquiètent les 7 pays africains dont les contingents sont en première ligne, qui ne veulent pas servir de chair à canon. Issa Fakaba, Sissoko.
Les autorités tchadiennes avaient vivement réagi après les événements d'Agelog en menaçant de retirer leurs troupes. À Niamey, les représentants ont tenté de faire le point sur les faiblesses du dispositif militaire onusien et de sa capacité à lutter contre la guerre asymétrique imposée par les groupes djihadistes. Le bilan en vie humaine de la force des Nations Unies est lourd. 33 casques bleus ont été tués depuis sa mise en place. Un chiffre très élevé selon le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, Arnold Akodienou. À cela, il faut ajouter les morts des opérations françaises Serval et Barkhane et ceux enregistrés dans les rangs des populations. Comme l'a fait remarquer le ministre nigérien des Affaires étrangères, la MINUSMA peine toujours à réunir les 12 000 hommes promis. Seulement 8 000 sont à ce jour opérationnels. La force manque aussi de blindés, d'hélicoptères et de drones de surveillance. La recrudescence des opérations menées par les organisations terroristes nécessite des moyens et un mandat spécifique. C'est ce qu'ont rappelé les représentants du Mali lors de cette réunion. Ils ont présenté 2 options aux experts présents à Niamey, celle du renforcement de la MINUSMA actuelle et la mise en place d'une force d'intervention rapide.
Selon des spécialistes qui suivent le contexte dans lequel intervient l'ONU, la réunion de Niamey témoigne de la nécessité pour la MINUSMA de se donner une mission plus offensive dans le nord, à l'image du Congo. Pour eux, il suffit de la volonté politique de le décider. Professeur Issa Ndiaye, philosophe chargé de cours à l'université de Bamako, est au micro de Issa Fakaba Sissoko.
Le problème essentiel de la MINUSMA, c'est sa mission. Le schéma est fait de telle manière que les Nations Unies se sont privées d'avoir une capacité d'action rapide. Ils ont laissé cela à la France. Et je pense que c'est ça l'erreur fondamentale. L'appellation même de cette mission, la mission MINUSMA, c'est une mission de paix. Si c'est une mission de paix, si on lit, ça veut dire que c'est pas une mission qui est destinée à faire la guerre, à combattre l'ennemi. Je pense que les pays africains feraient bien de poser nettement cette question. Il est temps de clarifier la mission de la MINUSMA au Mali. On voit par exemple dans le cas du Congo, les forces des nations d'intervention des Nations Unies ont mis du temps avant d'assurer dernièrement un rôle offensif. Je pense que la leçon congolaise est encore là pour rappeler que les Nations Unies peuvent se donner cette mission offensive. Mais je pense que dans le fond du problème, la question c'est une question de souveraineté des États. Quel est le poids de l'Afrique par rapport aux décisions du Conseil de sécurité? Ce poids-là est très faible. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faudrait que le Mali ait une stratégie en tout cas à moyen terme qui lui permette donc d'avoir cette capacité de réaction.
Un camion faisant partie d'un convoi d'approvisionnement de la MINUSMA a sauté ce matin sur une mine à 20 km au sud d'Al-Moustrat dans la région de Gao. L'explosion a fait 3 blessés qui ont été évacués par la MINUSMA pour recevoir des soins appropriés. Simultanément, une équipe anti-mine intégrée au convoi a neutralisé un 2e engin explosif dans les environs.
Tamani.
Pour vous informer et aussi pour vous donner la parole, Sido Tamani a créé sa page Facebook. Visitez-la. Situation toujours stable au Mali quant au virus Ebola. Il n'y a aucun nouveau cas depuis le décès de la fillette à Kaye. Les 108 personnes en contact avec elle, selon l'OMS, sont toujours surveillées. Après 2 semaines, aucune ne manifeste de signe de maladie. À Tombouctou, comme dans les autres régions du Mali, on est aussi en alerte. La cité attend ses équipements et son site d'isolement. En attendant, les responsables de la santé de la région mettent toute leur énergie dans la sensibilisation. C'est ce que nous dit Dr Ibrahim Maïga, médecin-chef au centre de santé de France de Tombouctou. Il est joint par Modibo Mariko.
Pour le moment, vraiment, c'est essentiellement la sensibilisation de la population par rapport à la maladie, les causes, les symptômes, les dispositions à prendre. Tout cela est mené au niveau des radios, au niveau des associations, au niveau des différents services. Il y a même beaucoup de services où il y a des dispositifs pour les lave-mains. On est même en train de voir comment faire des infrastructures. Au cas où on sait jamais, il peut y avoir des cas suspects et tout, voire même des cas réels. Puis il y a aussi des laborantins qui ont été formés aussi pour les prélèvements en cas de cas. Bientôt, des médecins seront formés par rapport à la prise en charge. C'est un niveau de l'hôpital. L'hôpital, c'est la deuxième référence. Donc c'est là-bas qu'il sera mis en place cette infrastructure par rapport à d'éventuels cas d'isolement. Actuellement, il n'y a aucun cas suspect, il n'y a aucune alerte réelle. Donc vraiment, on appelle la population au calme et à la sérénité. Les gens, quand même, sont sensibles à cette maladie. Et les gens vraiment, sont vraiment au courant de rapport à cette maladie. Donc, il y a aussi des changements de comportement, notamment les lavages des maisons à savoir.
Les activistes des droits de l'homme sont réunis depuis ce matin à Bamako pour défendre la justice transitionnelle. C'est en respectant le droit des victimes et en poursuivant les auteurs des exactions que se construit la réconciliation, disent-ils. Les deux organisations de défense des droits humains, la MDH et la FIDH, défendent ce processus. Mokhtar Mariko, président de la MDH, au micro de Barke Sissé.
Ce séminaire va permettre à tous les acteurs d'appréhender les techniques de la justice transitionnelle, c'est-à-dire donner la parole aux victimes, celles qui ont souffert du problème, de la crise, pour que ces victimes puissent s'exprimer, s'expliquer, si possible pardonner ou ne pas pardonner. Et nous pensons que ce n'est pas le fait d'aller signer des documents de paix qui vont amener la paix au Mali. Il va falloir qu'il y ait ce dialogue-là entre les Maliens. C'est-à-dire que ceux qui ont commis les crimes soient en face de ceux qui ont été victimes de ces faits-là. Et qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre ces deux afin que le Mali puisse vraiment aller vers une vraie réconciliation. Et les crimes qui peuvent être pardonnés vont être pardonnés. Et ceux qui ne peuvent pas être pardonnés, c'est par des crimes internationaux, ces auteurs-là vont être transférés devant la justice, soit nationale, soit internationale.
Plus d'un milliard de francs CFA de pertes, c'est l'impact de la grève de 48 heures observée en début de semaine par la section nationale des mines et de l'industrie, SECNAMI. Selon Mamadou Dakité, trésorier du syndicat, la grève a été une réussite. Il estime que si les 6 points de revendication ne sont pas satisfaits, une autre grève pourrait suivre. Il est au micro de Aliou Sidibé.
Globalement, nous avons vu que cette grève-là a été un succès parce que sur les 9 mines au fait qui sont opérationnelles au Mali, hormis Wassolor qui est arrêté depuis quelques moments, sur les 8, il y a 2 seulement qui n'ont pas observé la grève. Donc à part ces 2, en réalité, les 6 autres ont observé vraiment le mot d'ordre de grève ainsi que les sociétés sous-traitantes. Bon, Bamako également, à part l'autorité pour la recherche pétrolière, où les fonctionnaires, il y a un problème interne entre eux et puis les contractuels, n'ont pas également observé à 100% les fonctionnaires. Et pratiquement, tout était paralysé ici. C'est 2 journées aujourd'hui avec la production. C'est sûr que ce n'est pas moins de, vraiment, c'est pas moins d'un milliard. Après, c'est l'observation de ces 2 jours de grève. Quand nous allons tirer les enseignements, nous allons voir si effectivement nous devrons continuer dans la dynamique vraiment de la grève et cela ne tardera pas. Si on doit déposer un préavis, ça ne sera que la semaine prochaine.
Oxfam et la société civile se mobilisent pour lutter contre les inégalités. Près d'une centaine de personnes représentant différentes associations du pays se sont retrouvées ce matin au CICB pour débattre sur cette question. Selon le porte-parole de la société civile, partenaire d'Oxfam, on ne peut lutter contre la pauvreté en fermant les yeux sur l'inégalité. Dounantie Dao est un micro de Omar Waigallo.
Nous avons tous intérêt à lutter contre les inégalités si nous voulons lutter contre la pauvreté. Donc, on a dit dans les illustrations qu'au niveau mondial, quand vous comparez, prenez les 85 personnes les plus riches du monde, qui a été même revu à la hausse pour revenir aux 67 milliardaires du monde, ils possèdent une fortune égale à l'avoir des 3 milliards 500 millions de personnes les plus pauvres de la planète. Ça, c'est quand même un drame. Tout n'est pas indu, mais tout n'est pas dû aussi. Il y a des raccourcis, des méthodes qui sont mises en place pour perpétuer ces inégalités, faire en sorte que certains vivent de certains, et nous dénonçons cela. C'est pourquoi nous lançons cette campagne et nous invitons la presse et la population à se joindre à nous pour lutter contre ces inégalités.
Un évadé de la prison centrale de Kankan en Guinée a été arrêté par la brigade territoriale de Bamako-Koura. Cheikh Adam Chérif et un de ses complices a été neutralisé ce week-end. Les deux brigands avaient commis des méfaits à Dissoumabougou, Kanadjigila et Talikot 2, ayant fait des victimes. Ils ont été arrêtés avec l'aide de la population. Selon la police, 2 autres complices sont en fuite. Voici quelques nouvelles dans les régions. Une rencontre d'échange sur le développement local a débuté ce matin à Kaye. Plus d'une vingtaine de personnes ont pris part à cette rencontre organisée par l'ONG GRDR. Elle vise à faciliter la création de liens entre les territoires et engager des échanges utiles entre les acteurs des territoires. À Koutchala, plus de 10 000 personnes ont été enrôlées au cours des opérations du RAVEC. Malgré ces résultats, les agents rencontrent des difficultés dues au manque de moyens. C'est le cas des batteries pour alimenter les ordinateurs et de l'insuffisance du formulaire à remplir. Ces contraintes ont obligé 4 des 38 équipes à arrêter le travail. Plus de 130 millions de francs CFA vont être utilisés pour la mise en œuvre du plan d'action d'urgence de lutte contre Ebola à Koutchala. Pour mobiliser ces fonds, le centre de santé de référence a organisé hier un plaidoyer à l'intention de ses partenaires. Selon le médecin-chef, l'objectif est de prévenir la maladie. Au cours de la rencontre, l'accent a été aussi mis sur l'intensification de l'information et la sensibilisation à la prévention. L'association Demesso a lancé hier à Ségou son programme de participation active des justiciables. Cette organisation entend apporter sa contribution à l'amélioration de l'accès des citoyens à la justice et à la promotion d'un état de droit. D'une durée de 4 ans, ce programme va concerner 300 communes de 4 régions, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Plus de 25 jeunes diplômés sans emploi sont formés à l'informatique par l'ANPE de Ségou. Cette formation de 30 jours devrait aider les jeunes qui n'ont pas de notion en informatique à s'initier dans ce domaine. Elle est organisée par la Direction générale de l'Agence nationale pour l'emploi. 15 agents du district sanitaire de Bourriem sont actuellement formés à la prise en charge médicale et psychosociale des femmes survivantes aux victimes de violences durant la crise. Ce programme va permettre aux agents de santé de se familiariser notamment avec les droits humanitaires internationaux. Les acteurs de santé des 12 communes de Djiné ont tenu une réunion d'évaluation ce matin. Il s'agissait pour les participants d'analyser les activités menées par les différentes associations de santé communautaire ASACO et la fédération locale de ces associations. Il a été question de la lutte contre le virus Ebola dans le cercle, notamment les mesures de prévention contre l'épidémie. C'est la fin de cette édition présentée par Salimata Dao, mise en onde Nourum Djiré. Merci à tous et particulièrement à nos auditeurs depuis Philadelphie, c'est aux États-Unis.